tous. En novembre dernier, les élèves de CE2 de l'école élémentaire Paradis de Saint-Doulchard ont réalisé une vidéo stop-motion qui racontait la vie de José Flores, un réfugié espagnol. Il y a quelques jours, ils l'ont rencontré.
Moi, je ne vais pas vous parler de cinéma, j'y connais rien. Mais je vais vous parler de ce que ma vie, au moment où j'avais votre âge. J'avais 8-9 ans, j'étais en Espagne. En Espagne, nous avons eu un problème de... Bon, la République est arrivée et nous a donné une école dans tous les villages. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, les écoles étaient contrôlées par l'église, les curés, et il fallait payer pour aller à l'école. Donc les ouvriers, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Les filles, surtout les filles, n'allaient pas à l'école. Quand on est arrivé en France en 1939, 90% des femmes, des mères comme ma mère et puis bien d'autres, 90% qui ne savaient même pas signer leur nom, en 1939. Alors, donc, à votre âge, j'avais un petit village aux portes d'Oviedo. Oviedo, c'est dans les Asturies. Et on était une bande de copains, j'avais 8 ans, une bande de copains comme vous sûrement, aucun souci à la maison, j'avais mes parents, mes grands-parents, toute la famille était dans le même coin, donc aucun souci, et tout d'un coup, en 1934, il y a eu une petite révolution où Franco est déjà venu chercher pourquoi les ouvriers ils sont soulevés, et il a fait tirer au canon contre les grévistes, c'est-à-dire que Franco étant connu déjà par ses anciennetés, on lui a encore donné la suprématie des chefs des armées. Donc il avait le droit de tirer sur qui voulait. Du moment qu'il a ordonné à un soldat, il faut tirer, le soldat il ne peut pas reculer, il faut qu'il tire. Tout ça, on arrive à 1936, où tous les généraux dans toutes les villes d'Espagne, ils voulaient s'accaparer de l'Espagne. Donc ils voulaient foutre la République par terre. Ils sont donc soulevés contre la République. C'est là que les républicains ont commencé à tirer dans tous les coins pour empêcher que les garnisons ils sortent dans la rue. Mais comme ils étaient nombreux, ils n'ont pas pu être partout en même temps. C'est ce qu'il arrivait que moi, ma famille, on habitait à 600 mètres d'Oviedo, mais en montant légèrement vers la montagne. Donc, les républicains étaient au milieu de la montagne et les autres étaient en bas. On était dans le croissant. Alors, ma mère, elle a dit, bon, bah, mon père n'étant pas là, il était cheminot, donc il était dehors. Elle a dit, on ne peut pas rester là. C'est là que mon grand-père est arrivé. Mon grand-père qui habitait pas loin. Il avait 5-6 vaches, il est venu avec ses vaches et on est parti à la montagne. Le 18 juillet à 17h. Ça, c'est une date qui me restera tout le temps, toute ma vie. Mais, voilà donc, comme gamin, dès qu'on n'entendait plus la mitraille, on n'entendait plus les coups de feu, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait, on courait, puis on s'amusait comme si rien n'était. Pourquoi nous, en tant que gamins, on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer? En Espagne, en 1936, on n'avait pas de télévision, pas de TSF, pratiquement pas de téléphone, parce que dans les petits villages, le téléphone, il fallait des fois descendre à la ville pour avoir quelque chose. Donc on était au courant de rien. C'est là que, quand ça commence à tirailler, on était étonné, mais vraiment, on étonne de rien. Du moment qu'on dit on s'en va, et on est parti. Donc le 18 juillet, à 17h, on a quitté notre village avec mon grand-père, et on est monté à la montagne, dans le village là, à la montagne où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'armement, il n'y avait rien. Et de là, on est resté 3-4 jours. C'est là que mon père est venu nous chercher. Et on a commencé, est-ce qu'on peut dire, notre exil. La retirada que nous, on appelle la retirada, ça veut dire l'exil. Alors, d'un copain à un autre copain, on a continué à s'éloigner le plus possible de ce qu'il y avait des bagarres qui tiraient au fusil, ainsi de suite. Comme on était gamin, on mangeait, on pouvait courir, il y avait de la place, il n'y avait pas d'école. L'école disparue. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, alors, on avait tout un ensemble de gamins, bah, comme vous, il faut courir, on joue, c'est tout, on s'occupe pas, on s'occupe même pas de qui c'est qui nous donne à manger. Alors c'est ça le problème. C'est...
Les parents?
Ah, bah, bien sûr, les parents.
Comment s'appelaient vos parents?
Mon père, il s'appelait José Ramón Flores. Et ma mère, c'est Rita Alonso. Donc moi, je suis un Flores Alonso.
Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance en Espagne?
Bah, mon souvenir, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous, on n'avait aucun souci. On sortait de l'école. Il y avait de la place pour jouer. On était toujours une bonne bande. Bah, on jouait. Dans un petit village, on se connaît tous. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos copains? Il n'y a pas de problème. Donc, nous, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et par contre, il y avait la montagne qu'on pouvait monter, jouer encore plus que si on était entouré des maisons et quoi que ce soit. Donc, on a commencé notre premier exil le 16 juillet 1936 jusqu'à 1937, le mois de septembre, le 23 septembre 1937, où Franco avait déjà pris les trois quarts de l'Espagne et il était dans les Asturies, comme ça, bombardé tous les jours, ça tirait au canon tous les jours, sans arrêt. Une seule chance de pouvoir partir, c'était la mer. Donc on est arrivé à Gijón, où il y avait le port, où il y avait des bateaux. Et on nous a monté dans un bateau et on est arrivé en France. On a débarqué à Pauillac-Trompelou. Pauillac, je ne le savais pas, je ne connaissais pas Pauillac, c'est à côté de Bordeaux. Mais il nous a fallu un certain temps pour arriver à savoir dans quel petit port on est arrivé. Et c'est à Pauillac, il y a une quinzaine d'années qu'on le sait que c'est à Pauillac qu'ils nous ont reçus. Parce que les Français, le gouvernement français avait préparé l'arrivée de plusieurs bateaux dans cet endroit. Donc vous arrivez, vous débarquez, la première chose que vous voyez, c'est un gendarme. Deux ou trois mètres, un autre gendarme. Donc on était palissés. On ne pouvait pas se sauver, hein. On ne pouvait pas se sauver. Donc on nous a mis dans un train et on a atterri à Bordeaux. À Bordeaux, on n'a même pas eu le temps de mettre des pieds sur la gare de Bordeaux. On nous a mis là un autre train et on arrivait directement à Barcelone. À Barcelone. On a été reçus par les hommes des chemins de fer, puisque mon père était cheminot. Et nous, là, éparpillés à droite à gauche, les familles d'à côté, ainsi de suite, dans les petits villages autour de Barcelone. Et ça a duré 7-8 mois, où on était à l'école des Catalans.
De quel souvenir de la fille vous souvenez-vous?
C'est sûrement le bateau. Le bateau, parce que quand vous êtes en pleine mer, le bateau il tombe, vous êtes malade de la marée. On est tous sur les pontons, avec les blessés et les vieillards qui étaient au fond, les autres on était à l'air libre, mais tout le monde vomissait, malade, et bien nous on glissait là-dessus, et on repartait de l'autre côté, et toute la journée comme ça. Comme vous êtes malade, vous apercevez de rien. C'est normal, tout le monde est pareil, donc il n'y a rien à faire.
Est-ce que c'était difficile de partir? Avez-vous eu de la peine?
Difficile, oui, parce que tout de suite, on ne s'en aperçoit pas. Ah, vous suivez le menton, vous mangez, vous jouez, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il vous manquait parce que vous aviez tous les copains autour, vous aviez toute la famille, et d'un seul coup, vous vous trouvez dans un pays étranger tout seul. C'est ça que l'aider. Surtout pour nous, nos mères. Nos mères, elles avaient toutes, quand on est arrivé à Noirat, elles avaient toutes 5-6 gamins. Et puis, ils ne savaient pas parler français. Et ils ne savaient même pas écrire leur nom. Là, c'est quelque chose de terrible.
presque la réponse. Hein.
Oui. Est-ce que le voyage en bateau a été confortable?
Bien sûr que non. C'était des bateaux qui étaient prévus pour chercher du charbon. Donc on nous a mis là-dedans, c'est pas possible, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un plancher, et puis on glisse d'un côté, on glisse de l'autre, et puis c'est comme ça. C'est pas des bateaux pour aller se promener. Hein.
En quelle année votre père est parti et est-ce que vous étiez triste de ne pas avoir de nouvelles de lui?
C'est-à-dire que lorsqu'on est monté dans le bateau, mon père était à côté. Mais interdit aux hommes de monter dans les bateaux, de s'en aller. Il y avait encore la guerre. Donc ils expédiaient d'abord les femmes et les enfants, mais les hommes, ils restaient là-bas à continuer la guerre contre Franco. Quand Franco est arrivé, il n'y avait plus de moyen de partir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme les maquisards ici en France. Ils ont été dans les montagnes pour faire un petit peu de n'importe quoi, mais pour surtout pas faire prendre par Franco. On l'a retrouvé en 1978. À peu près. On savait où il était, mais hein, il est venu en France en 1978.
Est-ce que vous avez revu votre père quand vous êtes arrivé en France?
Ah non, pas quand on est arrivé en France, non. Mon père, la première chose qu'on a pu avoir de mon père, c'est que certaines personnes qui sont reparties en Espagne, ils nous ont envoyé des petits mots. On ne disait pas, ton père il est cherché là, il est là. Le petit oiseau est dans la montagne. Alors on s'est douté que c'était notre père, mais finalement, des oiseaux. On a eu des nouvelles vraiment vives qu'en 1963.
Est-ce que vous savez le nombre de kilomètres parcourus durant votre fuite?
Le bateau Bordeaux, le train Barcelone. À Barcelone, on nous a parqués un peu partout. Tous ces coins-là, c'est où on a atterri dans les villages par la suite de... Et comme Franco puisse aller puis monter, dès qu'on entendait une bombe, bah deux ou trois jours après, on partait parce qu'on s'était sûr que deux ou trois jours après, c'était pour nous.
Est-ce que ça vous a fait bizarre d'entendre parler français à votre arrivée?
Non, ça ne peut pas être bizarre d'entendre parler français. Vous ne comprenez rien, donc vous bouchez les oreilles et vous entendez. Et nous, les gamins, ça ne dure pas longtemps. Hein. C'est vite pris de A, B, C, on le savait, A, B, C. On savait les chiffres. Donc c'était moins dur que pour les femmes qui n'avaient pas lire et écrire. A, B, C, D, E, F, c'est les mêmes qu'en Espagne. Il y a des conjugaisons après que ça change un peu, mais pour dire bonjour, on ne disait pas bonjour, on disait bonjour, mais ça sortait quand même petit à petit. Au bout de un mois et demi, deux mois, on savait parler français. Mais on était déjà à Bourges, parce que toutes les péripéties avant, pas moyen de parler français. Donc, on était donc à Barcelone, et puis ça allait, puis Franco il avançait avec son armée. Donc dès que lui faisait 10 km, ben nous on en faisait 20 dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on arrivait à la frontière française, à Portbou. Portbou, il y a un tunnel. Le milieu du tunnel, c'est la frontière. Nous, on était dans un train, en tant que cheminots, on était privilégiés, on avait un train pour les cheminots. Mais le train, il s'arrêtait au milieu. Avant de partir, ma mère, elle avait choisi 3-4 bricoles pour chaque gamin, on était 6. Et puis, on avait donc un petit baluchon, de rien du tout. Mais, arrivé au train, on descendait du train, il y a les traverses, il y a les cailloux. On tombait les uns les autres, on voulait le baluchon. Ça fait qu'après, on se donnait la main les uns aux autres pour ne pas se perdre. Hein. Vous arrivez à la lumière du jour. Ma mère, ma soeur qui était la plus vieille, et puis moi j'étais tout de suite derrière. Je me suis même écarté un peu. Qu'est-ce qu'on voit? Les militaires français. Baïonnettes au canon. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est que c'était des Sénégalais. Vous n'avez jamais vu un Sénégalais en vue. Il y en avait un qui passait en voiture, en tout soi-disant. Mais vous n'avez jamais vu un Sénégalais. Vous tombez devant ces gars-là à 1m80. Mais c'est quel fusil était la main. Ils vous poussaient avec la baïonnette. Pourquoi on se dépêche de partir? Allez, allez, allez. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de la mer et puis on s'accroche aux jupes. Hein, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est comme ça qu'on a passé la frontière. Pour vous, Cervère. Entre Portbou et Cervère, il y a les 3 ou 4 lignes de chemin de fer. Il y avait beaucoup de trains d'arrêter à Cervère. Donc à Cervère, un train, on nous pousse les uns les autres, les uns par ci, les autres par là, les autres. Bon, on monte dans un train et nous sommes arrivés à Noirlac.
Est-ce que vous avez aimé l'abbaye de Noirlac?
On ne peut pas aimer l'abbaye de Noirlac dans nos conditions. Hein. À présent, je l'aime, parce que c'est moi que je suis souvent là-bas. Et quand un Espagnol a besoin d'un renseignement sur ses parents, ou ses... on m'appelle, moi. Mais bon, mais quand vous arrivez à Noirlac, c'est pas Noirlac d'aujourd'hui. C'est Noirlac des ronces, moitié démolie. Et de la paille par terre, vous arrivez à la grande salle, on aurait dit une église. Vous rentrez là-dedans, qu'est-ce que... Hein? 3-4 couvertures, mais alors, hein, joli, pas de paille. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les maires? Parce que là, c'est encore pareil, hein, nous, on s'occupait pas de ça, nous. Dès qu'ils avaient fait un petit coin, on se couchait, on dormait. Hein. Mais c'est nos maires, quand ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu apparaître? Ça les a pas émotionnés, hein. Parce que ça faisait quand même déjà 3 ans et demi qu'on traînait partout à droite à gauche. Mais chacune a fait un petit coin et on a couché là jusqu'au mois de septembre. Il y a eu la déclaration de guerre. À Noirlac, on nous donnait à manger. Mais on n'a jamais demandé à Pierre-Paul d'où ça vient, qui c'est qui nous donnait à manger. Nous, les gamins, on mangeait, on courait, on allait au Cher. Ah, le Cher, c'était notre salle de bain. Parce qu'à Noirlac, c'était pas là. Il y avait un petit puits de rien du tout, parce que dans le temps, quand il y avait les téliastiques là-bas, ils étaient 10. Alors avec un petit puits, ils avaient assez. Mais nous, on était 600. Et bien, il y a des femmes qui n'ont pas fait de palette pendant des mois. C'est comme ça. Mais nous, les gamins, on allait au Cher, hein, tous les jours, même les gendarmes derrière nous. Hein. Et ils ne pouvaient pas nous rattraper.
Vous avez
été
en France?
Oui, ben, je suis arrivé à Bourges. À un moment donné, j'y suis toujours resté. Notre vie à Noirlac. À Noirlac, on est arrivé le 3 février 1939. Alors, le gouvernement français nous donnait à manger, que nous, on ne le savait pas. Nous, les gamins, du moment qu'on mangeait, elle reste... Mais, c'était l'histoire de les mères, pour pouvoir sortir... Bah, pas moyen d'avoir des communications avec les paysans. Donc c'était les gens de Bruyère. C'était les gens de Bruyère qui, de temps en temps, par-dessus le mur, parce qu'il y avait un mur énorme, il y est toujours d'ailleurs, par-dessus le mur, ils nous jetaient des petites bricoles, mais surtout pour des trucs pour les gamins. Parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer une robe pour une femme que... Ils ne savaient pas comment travailler, ni rien, mais bon, c'était surtout pour les gamins. Et ils nous envoyaient de temps en temps un ballon pour qu'on puisse. Bah, ça, c'était. Mais caché derrière les gendarmes. Hein. La déclaration de guerre est arrivée et les gendarmes disparus. Alors nous avions un petit peu de liberté, mais le gouvernement français, il a dit. Il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer qu'il y en ait beaucoup qui rentrent dans leur pays. Dans le département du Cher, on était 3000 à peu près. Mais le gouvernement français, il a dit, bon, bah, on va essayer de grouper tous ces gens-là dans un seul endroit, et on fera des convois complets pour repartir en Espagne. Ils ne nous envoyaient pas. C'était ceux qui se présentaient, qui s'écrivaient pour partir. Et ils ont choisi Châteaufer pour nous. Ils ont choisi Châteaufer pour faire la concentration de tous les Espagnols. Châteaufer, ce sont les écuries ou qui avait que des chevaux, sous Napoléon.
Pourquoi votre mère n'a pas voulu repartir en 1940?
Ils partaient que ceux qui avaient des nouvelles de leurs parents. Ceux que leur père avait repris son boulot là-bas en Espagne. Ils pouvaient garder leur maison peut-être, et ils partaient. Nous, on n'avait plus de maison, puisqu'elle avait été bombardée les premiers jours. On n'avait pas de nouvelles de notre père. Notre grand-père qui est parti avec nous, on ne savait pas où il est, où il a atterri. Donc, on est obligé de rester calme, puis attendre. On a attendu un certain temps, puis quand il a fallu sortir travailler, ma mère elle a trouvé du boulot, et notre vie s'est faite comme ça. On est arrivé, on était ma mère et 6 enfants, et aujourd'hui on est 80 ou 83 ou 84 de la famille. Et tous en France.
Est-ce que vous avez eu peur de bombardement?
Tu ne peux pas le savoir parce que tu es trop jeune. Mais quand tu vois la bombe qui tombe à 300 mètres, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu essayes de trouver un coin pour être caché. S'il n'y a pas de coin, bah, allez. Hop. C'est comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de morts à cause de ça, mais ceux qu'on a pu sauver, bah, on est là. Ton grand-père, il a connu sûrement 40 en France. Et ton arrière-grand-père, tout le temps. Hein.
La grand-mère, elle
a connu la Deuxième Guerre, mais les femmes et les grands-parents. Quand on arrive à Noirlac, tout était calme. Et quand il y a eu la déclaration de guerre, d'ailleurs la première bombe qui est tombée allemande, qui est tombée à Bourg, il y a une personne qu'on connaissait, qu'on était ensemble, elle s'est fait tuer dans la cour de l'usine de Malière. Elle a fait 7 ans de guerre en Espagne. Elle arrive en France pour se faire tuer par une bombe allemande.
Avez-vous été blessé?
Non. Il n'y a pas eu des morts et des blessés partout. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a quand même qui s'en sont tirés. Hein. C'est comme en France, hein. Les bombes tombaient, mais il y en avait 3 qui étaient morts et 4 qui restaient debout. Hein. C'est comme ça.
Est-ce que vous avez des copains à l'école?
Ah bah j'en avais, mais là j'en ai plus parce que les copains, c'est comme elles restent. Hein. Ils se marient, ils s'en vont. Hein, et donc, il y en a peut-être 2 ou 3 qui restent, c'est tout. Mais, quand tu parles de l'école, pour y arriver à Bourg, évidemment, j'avais 12 ans. Donc, il fallait apprendre à parler le français. Hein. Il fallait aller à l'école. Il n'y avait pas d'autre solution pour apprendre le français, pour aller à l'école. Je me suis arrivé à l'école, moi, 12 ans, avec des filles comme toi, 8, 9 ans. Moi, je savais déjà écrire et lire l'espagnol. Et je savais faire les multiplications. Alors que les gamins, ils étaient encore à la frustration.
Et c'est comment se moquer de vous à l'école?
Ah, ils ne pouvaient pas se moquer de moi, parce que j'étais plus fort qu'eux. J'étais avec les gamins comme toi, 8, 7, 8 ans. J'avais 12 ans. J'étais pas plus grand à présent, mais je pouvais parler, je pouvais dire ce que je voulais, donc ils ne pouvaient pas me battre. Et au contraire, c'était de l'amitié qu'il y avait entre nous. Finalement, tout ça, ça s'est bien passé puisqu'on est toujours là. Et puis, on a travaillé. Ma mère, elle a travaillé dans une blanchisserie à Étang de l'Homme, des draps. Et l'hôpital militaire, je ne peux pas les draps comme ça. Il fallait un sacré courage pour le faire. Eh bien, elle a travaillé un petit peu comme ça. Et ils arrivaient les Allemands, ils ont arrêté. Eux, ils amenaient tout ce qu'il fallait. La blanchisserie a s'arrêté. Mais le patron, comme ce n'était pas mauvais homme, il a trouvé une place à l'usine de Malière comme brailleuse. Et puis, elle a fini sa carrière là-bas. Et moi, j'ai repris la relève. Je suis rentré à Malière en 42. J'ai fait 41 ans de service à Malière en tant que mouleur. Et j'ai fini pour un agent de maîtrise. Donc, je me suis marié en 1949. Nous avons eu 2 filles. Tout va bien. Les 2 filles, il y en a une qui a eu 2 enfants et l'autre, 1 seul. Donc, 3 petits-enfants. Les petits-enfants, ils en ont fait d'autres. Ça fait qu'on a 7 arrières, ces petits-enfants.
Que sont devenus vos frères et sœurs?
Ah ben, il y en a déjà 3 décédés, mais tout le reste, on est encore à Bourges. D'ailleurs, il y en a un qui habite à Saint-Doulchard.
Quand êtes-vous retourné en Espagne pour la première fois après votre installation en France?
Je ne pouvais pas aller en Espagne. Je n'ai pas fait un soldat en Espagne. Je n'ai pas fait mon service militaire. Donc je ne pouvais pas rentrer en Espagne. Ils m'auraient mis en prison parce que je n'avais pas été pour faire mon service militaire. Mais après, au bout d'un certain temps, j'ai aboli tout ça. Et puis, en 71, j'ai pu aller en Espagne pour la première fois.
Préférez-vous la France ou l'Espagne?
L'Espagne, c'est mon pays. Les Asturies, je l'ai dans le cœur. Mais la France, elle m'a élevé. Donc, je peux pas dire que j'aime pas la France. Est-ce que vous avez des parents descendants d'Espagnols? Il y en a un?
Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, ça fait 4 ans. Non, 4 ans, Samuel. Oui. 4 ans.
Hablas un poquitín en español?
Si.
Si?
Ben oui, pour un moment. Il est bilingue.
Il est bilingue.
La veille, c'était un jour un peu spécial pour Monsieur Flores.
Justement, on a une petite surprise pour vous, puisque c'était votre anniversaire hier. Et comme on a l'habitude de faire, notre petit rituel, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un anniversaire?
Merci énormément.
On chante. Alors, 1, 2.
Joyeux anniversaire,
José.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños
feliz. En
italien, il y a trois fois les 10 phrases.
Cette émission est terminée. Retrouvez-la en podcast sur le site de Studio Zef.